Bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous êtes sur Radio Emma et nous émettons depuis l'espace méditerranéen de l'adolescence à l'hôpital Salvator à Marseille. Nos ados vont interviewer le docteur Dorian Costa qui est là pour nous accompagner, répondre à toutes les questions en cette journée des troubles des conduites alimentaires du 2 juin. Nous allons faire un échange de questions. Certaines seront posées par les ados, certaines seront posées par le docteur Dorian Costa et nous en saurons plus donc sur les troubles des conduites alimentaires. Nous allons commencer par la première question.
En quoi consiste votre travail ?
Moi, mon métier, à mon sens, c'est d'être un médecin qui suis spécialiste dans les maladies psychiques et d'arriver à coordonner au mieux les soins et à vous accompagner au mieux dans les difficultés que vous traversez actuellement, notamment par des soins de psychothérapie, d'entretien, vous voyant régulièrement, mais aussi en organisant un soin pluridisciplinaire et complet, c'est-à-dire en coordonnant aussi les soins diététiques, les soins psychologiques, les médiations artistiques à côté aussi.
Merci. La deuxième question.
Comment réduire l'hyperactivité pour les patientes atteintes d'anorexie mentale dans un monde où l'on prône le sport à outrance ?
C'est sûr qu'aujourd'hui, on est dans une société qui va valoriser en tout cas certaines dimensions comme la performance, la réussite, tout ça, et l'hyperactivité psychique et physique aussi. Mais ce n'est pas que ça qui construit le trouble. Il y a cette notion de société qui prône en fait l'hyperinvestissement, l'hyperactivité, mais ça vient juste un petit peu colorer le tableau. Mais les symptômes d'hyperactivité liés à l'anorexie, ils ont toujours été là.
Merci pour ces questions et merci pour ces réponses. On passe maintenant en fait, de l'autre côté de la barrière, où c'est donc le docteur Dorian Costa qui interroge les ados.
Alors, la question que j'aimerais vous poser, c'est qu'est-ce que c'est pour vous l'anorexie mentale ?
Pour moi, quand on me parle d'anorexie mentale, c'est que je vois mon corps comme je veux le voir, pas comme il est réellement. Enfin, je sais pas, moi quand on me dit ça, je pense ça.
Moi, je dirais de 1, c'est un grand enfer. Enfin, c'est ce qui est venu tout seul. C'est une prison mentale qu'on se construit soi-même. Et c'est même avec toutes les volontés et tous les objectifs qu'on a, c'est hyper difficile parce que c'est ancré dans nous et c'est une partie, on va dire, de nous qui est difficile à mettre de côté.
Pour moi, c'est une maladie très compliquée. Qui demande beaucoup de force et de courage parce que c'est quelque chose qui, au plus le temps avance, au plus elle s'installe. Et c'est quelque chose qui a besoin aussi d'aide. On ne peut pas y arriver tout seul parce que c'est une maladie compliquée.
J'aimerais renchérir en disant que oui, je suis d'accord, c'est une maladie très compliquée. Et en fait, le côté restrictif de l'anorexie mentale, c'est que la partie... apparente de l'iceberg, parce que toute la partie immergée, c'est des problèmes relationnels, c'est des craintes sur l'avenir, c'est plein de difficultés qui se cachent derrière une restriction alimentaire. Si cette restriction est apparue, c'est qu'elle est apparue comme une solution à un problème, mais en réalité, c'est pas la solution à ces problèmes.
Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de rajouter quelque chose ?
Ouais, peut-être que c'est pas une maladie... Alors, c'est pas une maladie que de l'assiette, quoi. C'est pas une maladie de la nourriture.
On va repasser aux questions des ados, justement. Qui a envie de poser sa question ?
Pourquoi l'anorexie est plus fréquemment chez les filles que chez les garçons ?
Ce qu'on sait, c'est qu'en fait, c'est pas si peu fréquent chez les garçons. C'est-à-dire que l'anorexie mentale, c'est aussi une maladie du garçon, du jeune garçon et du garçon plus vieux. Ce qui est sûr, c'est que c'est des patients qui ont moins accès aux soins et qui sont moins détectés, moins diagnostiqués et moins pris en charge. Mais en fait, certainement qu'on est à des pourcentages de garçons et de jeunes garçons, justement, plus élevés que ce qu'on imaginait.
Merci. Une troisième question.
Quels sont les principaux facteurs qui peuvent déclencher l'anorexie ?
Il y a plusieurs causes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une cause particulière, il y a plusieurs choses qui font qu'on va déclencher ou pas ce trouble des conduites alimentaires. On sait qu'il y a une forte irritabilité qui va prédisposer certains jeunes patients, leurs jeunes filles ou jeunes garçons, à développer cette maladie. Après, il y a des facteurs environnementaux qui sont forts aussi, c'est-à-dire au niveau de l'histoire de vie, des traumatismes. Et après, il y a tout ce qui est les stress en fait, que peuvent rencontrer en fait, les patients. Voilà. Mais on va dire que s'il y avait une chose à retenir, c'est le côté plurifactoriel de ce trouble.
À votre tour maintenant de leur poser une question.
Moi, j'aimerais vous demander, Qu'est-ce que vous aimeriez ou souhaiteriez que vos camarades, copains de classe, d'école, sachent à propos de l'anorexie ?
Déjà, à mon sens, qu'ils arrivent à comprendre que c'est une maladie et que c'est pas quelque chose qu'on décide, ce n'est pas un régime qu'on s'impose, que on fait pas exprès et que les difficultés qu'on rencontre, parfois on peut arriver à essayer de les surmonter à notre manière et des fois ça nous dépasse et on n'est plus maître de soi-même.
J'aimerais bien faire comprendre à mes amis que c'est pas volontaire notre maladie qu'on a, parce que des fois j'avais des amis qui me disaient non mais tu sais c'est ta faute que t'aies la maladie et tout ça, et du coup je savais pas quoi leur répondre.
Est-ce que maintenant tu serais plus capable de leur répondre, de leur dire quelque chose?
Ben maintenant ils ont compris.
Ouais. Moi j'aimerais qu'ils sachent que ça prend du temps et que ça se règle pas, même s'il y a des phases où ça va mieux, ça se détermine pas qu'au poids. Et parce que souvent, quand on reprend du poids, par exemple pour l'anorexie mentale, ils pensent que tout est fini. Et ils mettent moins les mots, ils font vraiment moins attention. Et c'est là où ça peut vraiment faire du mal.
Que l'évolution de la maladie ne va pas toujours de pair avec le corps. Que voilà. Des fois, le mental avance pas aussi vite que le corps. Et des fois, c'est l'inverse.
Je suis d'accord.
Quelqu'un d'autre veut rajouter quelque chose ? Alors, on revient sur les questions des ados.
Quels sont les points communs que vous identifiez chez ces patients ?
Alors, avant d'identifier des points communs, moi, ce que je perçois le plus, c'est une grande diversité. Une grande diversité en termes de tempérament, de caractère, de personnalité. On est vraiment sur des tableaux et des choses qui peuvent être très différentes. Après, oui, il y a des choses qui peuvent se recouper, hormis les symptômes de la maladie, mais c'est-à-dire qu'on va pouvoir retrouver chez les patientes avant la maladie certains traits un peu ressemblants, c'est-à-dire il y aura des niveaux un peu de perfectionnisme élevés, des difficultés à se décaler ou à changer de décision. Ça, c'est des choses qu'on peut retrouver.
Avant de poursuivre, je vous propose d'écouter un spot qui a été élaboré par la Fédération française anorexie-boulimie pour cette journée mondiale des troubles des conduites alimentaires du 2 juin 2021. On écoute ça.
L'anorexie mentale, la boulimie et l'hyperphagie boulimique sont des maladies graves qui touchent 900 000 personnes en France. On les appelle les troubles des conduites alimentaires ou TCA. Le 2 juin prochain, c'est la journée mondiale des TCA. Pour les reconnaître, pour en parler, pour dire que des aides et des traitements existent. Hashtag NoMoreTCA.
Alors, on poursuit avec la dernière question de la part des ados.
Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
J'aime le contact avec les patients. J'aime la discussion. Ce que j'aime, c'est soigner une maladie qui n'est pas palpable. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant dans ce métier.
Moi, j'avais une question. On l'a pas posée. Mais est-ce que vous pensez qu'on guérit réellement de l'anorexie ou on doit apprendre à vivre avec ?
Bien sûr qu'on guérit. On guérit l'anorexie mentale. C'est environ quasiment la moitié des patientes qui vont guérir. D'accord, c'est 40 à 50% qui guériront totalement. Est-ce qu'on appelle guérison, c'est-à-dire retrouver un poids normal, retrouver un comportement souple et flexible par rapport à l'alimentation et plus des préoccupations alimentaires. Après, toutes les dimensions aussi plus psychologiques de la maladie. Mais oui, donc ça, c'est vrai qu'on peut guérir l'anorexie.
Ça, c'est rassurant. Et nous allons terminer, en fait, par la dernière question de la docteure Doriane Costa.
Alors, ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous aimeriez que votre famille sache ou comprenne ou apprenne de manière générale sur l'anorexie mentale ?
Alors moi, ce que j'aimerais qu'ils sachent, c'est que même s'ils nous donnent tout l'amour que d'une famille, c'est pas avec ça qu'on peut guérir. C'est que l'amour n'influe pas sur la guérison.
Bah, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'était ce que je voulais dire en fait. Et aussi, on ne contrôle pas forcément... Enfin, c'est pas parce qu'on a envie de guérir que forcément ça va être facile. Voilà. Une chose que j'aimerais qu'ils sachent aussi, même si sans doute, c'est que si on... Enfin, en tout cas pour ma part, si je suis tombée malade, c'est pas de leur faute, c'est pas parce qu'ils ont fait une gaffe ou qu'ils ont dit quelque chose de travers ou qu'ils se sont mal comportés. Ça a été un ensemble de facteurs qui ne dépendent pas d'eux. Et souvent, je sais que les parents, ils se remettent beaucoup en question en se disant « Et si j'ai fait ci ? Et si j'ai fait ça ? Et si ça serait moi ?» Mais c'est pas toujours le cas. Voilà.
Après, moi, je voulais dire aussi qu'il y a des parents qui ils mettent du temps à comprendre. Mais une fois qu'ils connaissent vraiment la maladie, tout ça, ben, ils peuvent être vraiment une grande aide. C'est quand ils s'habituent et qu'ils acceptent que ça prendra du temps et qu'ils se mettent à vos côtés contre la maladie, ça aide vraiment.
Et pour compléter donc ce que tu dis, c'est vachement important ça. C'est-à-dire que leur amour ne vous permettra pas de guérir, mais leur soutien est précieux.
Ouais, oh oui. D'avoir un soutien... de toute façon, je pense que tous les parents... Enfin, il n'y a pas tous les parents qui ont un soutien pareil, mais le soutien, c'est super, super important.
Si ce n'est même indispensable.
Ouais.
Et moi aussi, ce que je voulais dire, c'est parce que souvent, à la famille, ils disent que quand on mange, à partir de là, on est guéri. Et du coup, j'ai l'impression, comme vous disiez tout à l'heure, ils font plus trop attention à nous. Enfin, ils disent, elle est guérie.
Et du coup, il y a un peu de lâcher sur le soutien,
ouais.
Alors qu'en fait, c'est...
Du coup, ça me donne envie de rechuter pour dire comme ça, ils s'occupent plus de nous et tout ça.
Oui. On comprend, je pense.
Merci beaucoup, en tout cas, pour toutes ces paroles vraiment très, très, très précieuses et courageuses et honnêtes qui, je pense, seront utiles à tous ceux qui les entendront. Merci pour ces propos. Et c'était une émission organisée par l'équipe du docteur Flora Batt, spécialisée dans la prise en charge des troubles des conduites alimentaires, au sein du service du professeur David Dafonseca à l'assistance publique Hôpitaux de Marseille. Et c'était donc pour cette journée mondiale des troubles des conduites alimentaires du 2 juin 2021.